Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Radio Attitude, votre radio 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 rue Fécamp Charente, mais aussi sur www.attitudefm.com et en podcast rubrique sport. Bienvenue dans Culture Sport, votre émission hebdomadaire chaque lundi 19h-20h30. Nous accueillons Benoît Le Tapissier, président de la LJ Soyaux. Président, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait longtemps qu'on avait eu Sigatandia la saison passée avec Laura Bourgoin et on est ravis de pouvoir accueillir la JF de nouveau.
Le plaisir est partagé.
Concrètement, est-ce que vous pouvez faire un bilan par rapport à un rapide bilan sur la saison passée?
Alors, il y avait plein de choses qui s'est passé depuis un an et demi. Alors, vous savez, aujourd'hui, il y a une société, une SAS, qui gère le club, la partie pro, la D1. Parce qu'avant, c'était géré par une association, vu ce qui se passe dans le monde de foot féminin. Et pour exister encore sur le monde pro, il fallait aussi s'adapter, puis adapter le club. Et que ça soit géré vraiment par une société pour qu'on puisse rentrer dans le mode professionnel, ce qui a été fait depuis le mois de juillet. Alors, il y a eu du changement, parce que c'est vrai, le club, c'est un club historique, qui est un club féminin à 100%. Je crois qu'on est le seul dans ce paysage de foot dite professionnel. Et c'est un club aussi qui a le record historique en présence en D1, le plus haut niveau. Et alors, pour sauver ce club-là, il fallait faire vraiment cette décision, ou prendre la décision et faire le pas pour passer vers le mode professionnel. Alors, il y a eu aussi, entre-temps, un changement de coach. Et puis, il y a eu aussi pas mal de départs et d'arrivées. Mais finalement, la saison dernière, c'était une saison sportivement on était maintenu. On a fait une dernière partie de saison qui était très intéressante. Ce qu'on disait, s'il y avait encore deux ou trois matchs, à mon avis, on sera même encore monté encore plus dans les classements. Mais on a réussi à se mettre les choses en place, mais on a mis du temps parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de changements dans ce club.
Par rapport à l'année dernière, qu'est-ce qui a changé en termes de structure? Vous êtes structuré au niveau professionnel?
Oui, en fait, c'est une société, c'est une SAS.
Oui.
Qui gère les clubs pro.
D'accord.
Et l'association continue à gérer, en fait, les autres catégories, comme le 19 NAS, comme le club réserve, et puis les U6, U7. Pour ça, il y a aujourd'hui, à l'ESG Soyaux, il y a l'association, et puis il y a la SAS.
Vous êtes sur combien de licenciés, président?
Le club, en total, on est à peu près sur 250 licenciés. Alors, on a des licenciés amateurs, et puis après, on a ce qu'on appelle l'ASG Soyaux. On va dire 95% de les joueuses, ils ont des contrats FED, ce qui n'était pas le cas avant. Il y avait moitié, mais là, on a à peu près, on n'a que nos jeunes, deux jeunes, qui issus de centres de formation, qui sont encore avec un contrat amateur. Mais quand nos joueuses cadres, c'est des joueuses avec un contrat FED, c'est-à-dire c'est leur métier maintenant, ils ne font pas autre chose que le foot.
Et c'était quelque chose d'inéluctable vers lequel vous deviez tendre, c'est ça?
Oui, de toute façon, vu le niveau depuis 3 ans, on a remarqué que le niveau de la D1 il a monté encore d'un cran, mais si on voulait suivre, il fallait vraiment qu'on puisse avoir des joueuses professionnelles. Que ce sera vraiment leur métier pour qu'on puisse garder un certain niveau, parce que si on fait pas ça, on pourra plus suivre. Et pour exister encore et garder son record historique en présence en D1, il fallait vraiment qu'on s'adapte. Et puis, c'est tant mieux pour tout le monde, c'est le niveau de la D1 il gagne encore en autorité, et puis, il faut dire aussi que le championnat français, si c'est pas le meilleur d'Europe, c'est un des meilleurs en Europe.
Dans les grandes lignes, quels sont les objectifs que vous êtes fixés cette saison?
Alors cette saison, l'objectif c'était en fait c'est milieu de tableau. Mais quand on voit ce qui s'est passé dans la première partie de saison, malgré en fait le niveau de l'équipe a vraiment évolué par rapport à l'année dernière. On a vu il y a des matchs sur lesquels si on rejoue le match 10 fois, on les gagne 10 fois. Mais quand on a compté, on discutait ce matin, je crois qu'on a eu 9 barres, il n'y en a pas un qui était rentrant. On a eu des occasions, beaucoup d'occasions. Là, c'est vrai, on est placé 10e. On a des matchs qui sont décisifs en mois de février. Si on arrive quelque chose, à mon avis, on arrive déjà à assurer le maintien et essayer de gratter quelques places. Si on arrive à être 8e, 9e cette année, ça peut être très bien. Et le maintien, ça reste un objectif.
Quels ont été les mouvements enregistrés au sein de l'équipe professionnelle en termes de départ, en termes d'arrivée?
Il y avait 4 départs dans la première partie de saison. C'est des départs purement sportifs, parce qu'on a fait les bilans avec les filles qu'on... Sportivement, en fait, c'était un peu dur, la D1. C'est des filles qui venaient du championnat suisse, championnat italien. Et puis, il y a des filles qui sont venues du championnat brésilien. Et c'est vrai, le championnat français, c'est un peu plus dur. On a fait un départ, il y avait 4 départs. Et puis, on a fait rentrer aussi de nouvelles joueuses. Et là, ça fait l'actualité un petit peu. On a une joueuse chinoise qui est arrivée chez nous de Shanghai. Shanghai, il faut savoir, c'est un des plus grands clubs professionnels en Chine. Et alors, l'objectif, c'était de placer des joueuses en Europe. Et en France, ils ont choisi l'AISI Soyo. Il y avait plusieurs propositions et leur choix était vraiment sur l'autre club. C'est une discussion qui a duré, je crois, 5 ou 6 mois. Et on s'est mis d'accord pour le prêt de Yang. Et après, on a fait jouer aussi une joueuse de Côte d'Ivoire qui a joué ce samedi, Binta. Et après, on a une joueuse aussi qui est venue nous rejoindre, une russe. Alors, son nom de famille, je retiens plus là parce qu'il y a un nom compliqué. C'est une russe qui est revenue nous joindre. Danilova, oui, c'est le nom. Et on a une petite joueuse aussi qu'on était surpris de 18 ans qui est venue de Sarcelles. Il est venu comme ça pour faire un essai, mais par rapport à son âge, il m'était bluffé. Pour ça, je vais faire un petit contrat parce que je sais que c'est un profil sur lequel je maintiens que le club, on en a beaucoup de jeunes aussi qu'on dit pas dans l'effectif. On a beaucoup de jeunes qui participent même à nos matchs. On a des filles de 19 ans, 18 ans et c'est une fille aussi qu'on a fait un contrat aussi parce qu'on croit que ça peut donner quelque chose dans les 2 ans à venir. C'est Aminata Yakate.
Vous êtes un chef d'entreprise. Est-ce que d'abord vous pouvez un peu nous parler de vos activités et surtout comment vous êtes arrivé dans le foot féminin et surtout à Soyo?
Alors la société, en fait, je dirige une société qui s'appelle Item, qui est le partenaire de club de Soyo, parce qu'on voit aussi le logo sur les maillots. C'est un des plus grands partenaires de ce club, c'est la société Item. En fait, nous, on travaille dans le télécom. Alors quand on dit télécom, c'est vraiment la téléphonie mobile. On peut citer les 4 opérateurs, on travaille pour les 4.
D'accord.
Et puis on est spécialisé dans ce qu'on appelle l'intégration paysagère. C'est de la société. Alors, on a des concepts qu'on a inventés. Ce qu'on appelle, c'est des fausses cheminées, des faux arbres pour qu'on puisse intégrer et cacher les antennes qui sont sur le toit. Et on est leader au niveau de notre marché national.
Et comment êtes-vous arrivé du coup à la Soyo? Parce que c'est vrai que il me semble que vous êtes arrivé il y a 2 ans, je dirais, ou 1 an et demi, enfin, au moment où ça a pas mal changé à la tête de la J. Comment est-ce que vous êtes arrivé?
En fait, l'arrivée, c'est au hasard. Parce que moi, j'ai ma fille qui a aujourd'hui 17 ans. Qui est gardien de but, qui a fait 4 ans PSG. À un moment donné, en fait, il voulait passer sur autre chose et puis on nous a dirigé vers l'AS de Soyo, disons que c'était un club familial. Il y a 3 ans, il est venu, il a passé 1 année ici et c'est là où j'ai croisé les gens de l'AS de Soyo. Et en discutant avec eux, je savais qu'il y avait un projet de monter un SAS et puis mais là, pas pour passer à l'autre niveau professionnel. Moi, au départ, il y a 2-3 ans, je vous donne mon argent. Je dis pourquoi pas, mais sans aller plus loin. Et puis, 1 an et demi, ils sont venus me voir dans les régions parisiennes, que ma fille n'était plus dans le club. Ils sont revenus avec le projet, et puis on a discuté un petit peu, au bout de, je crois, 2-3 jours de discussion, j'ai décidé d'y aller, et puis accompagner, monter la société en mois de juillet. Là, ça a été décidé, en fait, dans nos bureaux à Rosny-sur-Seine, dans les régions parisiennes.
Comment ça se passe d'être dans la tête d'un président, finalement, d'un club en perpétuelle évolution? Vous parlez de ce championnat D1 féminin qui évolue, Canal+ arrivé avec les droits télé, et tout, on voit que le niveau moyen évolue avec aussi beaucoup de clubs qui ont des sections féminines intégrées un peu au club masculin. Comment vous, j'imagine que vos journées sont très occupées.
Oui, de toute façon, j'anglais entre l'entreprise, parce que c'est vrai, l'entreprise, le siège, il est dans la région parisienne, mais on a une agence à Lyon, Toulouse et Aix-en-Provence. Et moi, depuis le Covid, la famille a déménagé dans le sud. Alors, c'est dans mon travail que je bouge dans les 4 coins de la France. Ça n'a pas changé grand-chose. Mais c'est vraiment, il faut s'adapter aussi pour être présent, parce que je tiens à être présent au moins pour les matchs. Et de temps en temps, on vient les voir. Comme là, en ce moment, je suis au club. Bon, quand je discute avec vous, je suis à Soyo. Alors, le foot féminin, en fait, c'est quelque chose qui m'a attiré beaucoup. Parce que il y a le foot garçon. Mais c'est pour moi, c'est on a plus de valeur de foot, le foot que j'aimais. Il y a plus de valeur pour moi, hein. C'est mon point de vue dans le foot féminin que quand chez les garçons. Les gens en discutaient en disant, je crois, il y a 35% plus de temps de jeu dans un match féminin que match de garçons. On en a, je crois, entre 3 à 4 minutes d'arrêt de jeu. Et chez les garçons, on peut frôler le 20 minutes d'arrêt de jeu. Et quand une fille se blesse, elle en a quelques secondes pour se lever, mais je crois 6 fois ou 7 fois plus que pour un garçon. Il y a plus de, peut-être, des spectacles ou des cinémas de l'autre côté que les filles. Et les filles, je dis, on dit, quand une fille marque un but, il va voir ses copines. Un garçon, il va chercher la caméra, il va chercher un peu plus. Moi, la valeur de football, je le trouve plus chez les filles que chez les garçons. Il y a des gens qui peuvent être d'accord avec moi ou pas, mais ce que je vois aujourd'hui, il y a plus le foot business, ça commence à venir. C'est nécessaire aussi parce qu'on a besoin aussi des sponsors pour qu'on puisse pousser ce sport-là, pour qu'on puisse avoir les meilleures joueuses et puis donner les meilleures conditions de vie. Mais de l'autre côté aussi, ce qu'on voit qui se passe chez les garçons, pour moi, ça dépasse le foot. Ça devient autre chose que le sport qu'on aime.
Vous nous dites que pour vous, le foot féminin, ça reste encore, entre guillemets, à taille humaine?
Oui, ça garde ses valeurs, en fait.
Et vous parliez de changement de coach, donc oui, c'est vrai que la saison dernière, du coup, Sébastien Joseph a arrêté je crois que c'était en novembre, remplacé par Laurent Mortel, qui a magnifiquement maintenu le club. Hein. Vous faisiez mention d'une très belle fin de saison, hein, pour rappeler les victoires, notamment contre
Le Havre, 3-0.
Ouais, complètement. Il y avait eu aussi tout ce qui était Marseille, Fleury. Il y avait une belle victoire contre Fleury 1-0, une victoire aussi ici qui était hyper importante. Il y a un nouveau coach qui est arrivé depuis cet été, donc Dragan Zvetkovic. Comment s'est porté le choix sur Dragan, qui, je crois, n'avait aucune expérience du foot féminin à ce moment-là? Habitué à entraîner des garçons, je veux dire.
Oui, en fait. On souhaitait que Laurent y reste, c'était son souhait. Mais après, l'encadrement de la masse salariale de la DNCG, puis c'était purement financier, en fait. On n'a pas pu tomber d'accord par rapport à ce qu'ils souhaitaient et par rapport à ce qui était possible. À un moment donné, quand on est encadré par la masse salariale, les salaires, ils sont encadrés. Et pour X raisons, c'était purement, c'est des choix économiques qu'on n'a pas pu trouver un terrain d'entente entre ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils peuvent proposer le club. Mais s'il reste, pour moi, sportivement, humainement, c'était un coach sur lequel je comptais beaucoup et je souhaitais qu'il restait, mais après, pour ces raisons-là, il n'a pas pu rester. Alors, pourquoi Dragan? Alors, quand on a cherché, moi, j'étais vraiment agréablement surpris de nombre de coachs qui m'ont appelé. Et des coachs, en fait, ils dirigent même des équipes. C'était le coach de l'équipe nationale d'Italie, puis un coach allemand, mais moi, ce que je leur ai dit, je cherche pas un star, je cherche vraiment quelqu'un qui peut construire dans le club. Et en posant des questions, que ce soit la Ligue, parce que Dragan, c'est quelqu'un qui a travaillé à la Ligue pendant quelques années. Hein. La Ligue et en discutant même avec les gens de la Fédé, on m'a tous conseillé, c'est une personne qui a un projet pour construire, un projet pour 2-3 ans à venir, et en discutant avec lui, même en passant un coup de fil, il a pris l'avion, il est venu me voir dans le sud. En fait, c'est passé, le courant a passé tout de suite, on a discuté, et au bout de 24 heures, on a décidé de partir ensemble.
Oui, puis il faut dire aussi que Dragan Zvetkovic, il est entraîné du côté de Limoges, donc il connaît relativement bien la région aussi.
Oui, il connaît bien la région, il connaît la Ligue, en fait. Même des fois, de temps en temps, on a besoin de la Ligue, on a besoin de leur outil, on a besoin de leur terrain. Et puis, en fait, il y avait plus de sujets avec la Ligue. On sait qu'il a assez de points d'entrée, il est apprécié par des gens là-bas, puis ça nous a aidés, puis c'est quelqu'un qui est très humain. Il y a peut-être, oui, il a 60 ans, mais il faut savoir aussi, il a entraîné des très grands clubs. Et le foot féminin, aussi, pour lui, c'était un challenge. Et c'est pour ça, autour de lui, on en a mis, en fait, un staff qui venait de foot féminin, pour qu'on puisse équilibrer entre les deux.
Qu'est-ce qui vous a un peu ressorti comme expérience après une demi-saison, entre les différences entre coacher du coup, une équipe comme Limoges, qui était en National 3, donc on va dire semi-professionnel en foot masculin, et puis une équipe de la J qui est en D1 féminine, du coup, qui est au plus haut niveau national. Quelles sont pour lui les différences un peu entre les deux?
Il y a les gestuels avec les joueurs. Lui, il était gêné en disant, moi, j'avais des gestuels avec mes joueurs, mais je peux plus le faire avec mes joueuses. Il y a un certain distance. Après le match, on y va dans les vestiaires, mais là, on peut plus y aller. Il y a des choses comme ça. Parce que c'est un coach qui est très près de ses joueurs. Et le foot féminin, c'est vrai, lui, il avait ses habitudes avec les garçons. On vient sur un on vous dites le plus haut niveau de foot féminin, mais on n'entraîne pas pareil une équipe de filles qu'un niveau de garçons. Mais pour moi, il s'est adapté très rapidement et surtout qu'il avait des adjoints qui venaient de foot féminin, qui l'ont aidé. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on va animer une séance, c'est plutôt les adjoints qui vont animer les séances. Et lui, il est là vraiment pour donner une solution de jeu. Ce que je remarque cette année, on a eu tous les matchs qu'on a fait, on a eu beaucoup plus d'occasions que l'année dernière. C'est-à-dire, c'est un coach qui cherche vraiment à, il aime le jeu. C'est un ancien attaquant qui a joué à Bastia, je crois. Et puis, il a joué à Lens. Et puis, il a ramené cette touche d'un attaquant qui aime bien et refuse pas le jeu.
Et puis, en parlant de la saison, donc, vous aviez un match hyper important pour démarrer cette saison de D1 avec la réception d'ICI. Un match important parce que, ICI c'est une équipe qui joue le maintien. Donc c'était forcément une équipe qu'il fallait battre pour prendre déjà un peu d'avance sur elle, et vous l'avez fait 2-0 avec cette victoire 2-0 acquise fin août. On peut dire que votre championnat a démarré de la meilleure des manières.
Oui, en fait c'était le match, en fait au départ on demandait à ce que c'était le bon match à démarrer, puis le résultat nous a donné raison, c'était le bon match, et puis on a mis tout de suite, parce qu'on a fait des matchs amicaux, mais c'était contre les D2, on a fait contre Marseille, on a gagné 5-0, en fait on a tout de suite montré notre place est vraiment en D1, parce que les matchs américains qu'on a fait avec les D2, on pouvait gagner 5-0 contre 10-0. Et puis après, on a commencé par ici, c'était un très bon match. On a gagné 2-0. C'était le plus belle manière pour démarrer une saison.
D'ailleurs, vous faites référence donc aux équipes de D2. J'imagine qu'il y a un gros écart de niveau, peut-être même un fossé entre les formations D1 et D2.
Exactement. Ce qu'on voit, en fait, le résultat, c'est toujours le même.
Oui.
Alors, quand on regarde les deux clubs qui montent en D2, souvent, c'est les deux qui descendent.
Sachant qu'en plus, en D1, il y a quand même deux, trois équipes qui sont au-dessus du lot. Enfin, il y a quand même relativement peu de surprises, le classement. Et on voit toujours les deux premières, Paris et Lyon, ou Lyon et Paris. Et puis après, derrière, enfin, au final, c'est un championnat à plusieurs vitesses. Je ne sais pas trop si vous êtes d'accord avec ce constat.
Oui, oui. De toute façon, on sait que Lyon et Paris sont intouchables. Hein. C'est pas contre Paris et Lyon, on y va toujours, on y croit. Hein. Mais ils sont intouchables. Après, à partir de troisième place, hein, quand on voit même le match qu'on a fait samedi contre Paris FC, oui. On était à deux doigts de revenir de partout. C'est un effet de match. Et puis, souvent, on n'a pas refusé le jeu, on a fait un bon match. Je crois qu'on les a rendu la vie un peu compliquée. Le match qu'on a fait aussi, qu'on perd 1-0 chez nous contre Montpellier, qu'on fait une barre, et puis minimum, il fallait faire un match nul. En fait, les autres équipes, ça commence à se rapprocher. Mais je suis d'accord avec vous. Peut-être il y a trois niveaux du championnat. Il y a le premier, le deuxième, et puis là qu'on voyait aujourd'hui que Fleury il est quatrième. Et puis je crois le match qu'on a fait contre Fleury, on a démené l'équipe adverse de bout en bout chez elle, et puis on perd 1-0. Et là où il se trouve quatrième.
J'allais venir justement à ce genre de match. Donc ta défaite à Fleury 1-0. Moi j'avais vu sur Canal la défaite contre Dijon 2-1, qui était hyper frustrante parce que c'est un match que au minimum que vous devez au moins prendre un point. C'est des courtes défaites, mais c'est des défaites qui sont quand même encourageantes par rapport au niveau de la SJ.
En fait c'est plutôt frustrant parce que les filles jusque là ils parlent de match de Fleury. En fait on a eu je crois 3 barres. Et 3 face à face, et puis on prend un but, le gardien le dégage sur le dos de la défense, et le ballon il tombe, et puis comme on dit les filles, hein, si on joue ce match-là 10 fois, on le gagne 10 fois. Mmh. Ils étaient frustrés, mais pareil, on était chez elles, on a proposé quelque chose, pareil contre Dijon, il y a un but qui était refusé, mais on a regardé la vidéo 3-4 fois, le ballon il rentre 1 mètre à l'intérieur, mais l'arbitre ne siffle pas, hein, ça reste aussi bien un des problèmes aujourd'hui qui s'est soulevé par tous les clubs, hein, les niveaux d'arbitrage. C'est un peu limite, hein. Quand on voit sur, on a eu un effet, je sais pas, parce que le match n'était pas filmé, en Coupe de France, on a joué contre Orléans.
Oui.
Et l'arbitre a sifflé un hors-jeu dans notre partie de terrain. Ah non. On est allé l'expliquer que c'est pas dans les règles, mais non. Puis ça reste un peu dans les choses qu'on a notées, qu'on trouve des fois drôles après, mais pendant le match, c'est pas des choses en fait qui nous sourient. Et après, ce que j'ai dit, on a eu 9 barres ou 8 barres. Il n'y avait pas un qui était rentrant depuis le début de saison. J'espère que ça va changer dans la deuxième partie de saison.
Bon, en tout cas, les matchs les plus importants, vous les avez gagnés, puisque vous battez ici 2-0 à Léo Lagrange, et vous battez aussi Saint-Etienne 2-1. C'est les deux équipes qui sont donc dernière et avant-dernière. Donc, en tout cas, c'est
un match nul à Guingamp aussi.
et match nul à Guingamp, oui, j'allais le préciser. Donc vous avez pris des points contre vos adversaires directs pour le maintien entre guillemets.
Oui, oui, en fait, quand je vois ce qui propose l'équipe, en fait, normalement, on a une équipe à notre portée. Quand on parle de Reims, Dijon, même Fleury, c'est oui. Des équipes qu'on pourra faire des matchs, mais on peut gagner, comme on peut perdre, qu'on peut faire match nul. Montpellier, on a proposé un match très intéressant chez nous. Et alors Bordeaux aussi, c'était les plus mauvais matchs qu'on a fait dans la phase aller. On comprenait pas ce qui s'est passé, mais on va se préparer aussi pour que puisse prendre notre revanche quand ils vont venir jouer chez nous.
Vous écoutez Attitude sur 98.3 Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 pardon à Ruffec, mais aussi sur www.attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission chaque lundi 19h-20h30. Nous retrouvons Benoît Le Tapissier et Christian.
On va continuer sur un peu les résultats de la AJ cette saison. Vous le précisiez, donc vous avez gagné contre Orléans en 16e de finale de la Coupe de France 2-1. Le fait que Paris et Lyon soient rencontrés, ça veut dire qu'il y aura forcément une de ces deux équipes qui ne sera pas en finale. Donc il y a potentiellement au moins une place en finale à aller chercher contre l'une de ces équipes potentiellement.
Exactement, si on ne les rencontre pas avant, oui, oui. Déjà, il y a Bordeaux qui est plus dedans. Il y en a un maintenant soit Paris, soit Lyon. Après, on vous dit, tous les autres clubs sont jouables. Mmh. Et en espérant, si on est qualifié pour le quart de finale, si on ne prend pas contre ni Paris ni Lyon, il y a le moyen d'aller plus loin. Contre le match de Lyon, on a demandé le report de match parce qu'on avait 6 ou 7 cas de Covid. Et une fois les filles, on a 90% des filles qui étaient touchées par le Covid. Au moins, on est tranquille pendant 6 mois. Et j'espère qu'on... Ah, de toute façon, on fera tout pour aligner notre équipe type hein, pour jouer ce match-là. L'idée, c'est vraiment l'objectif, c'est aller le plus loin possible dans cette compétition.
Dans cette compétition, ouais.
C'est vrai que le mois de janvier a été un peu le mois des restrictions. Il n'y avait plus de buvettes, il y avait des jauges dans les stades. Comment ça va se passer comment ça s'est passé contre le Paris FC?
Alors, contre le Paris FC, en fait, là, il y a des choses aussi qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que nous, on était limité quand on a fait le compte à 90 personnes. Et puis, on était obligé de fermer les guichets. On ne peut pas vendre des billets entre les abonnés et les clubs visiteurs qui viennent, qu'on va leur donner 20 places. Et puis, les joueuses qui ont le droit aussi d'inviter de la famille, on n'a pas ouvert. Et puis pour le match de coupe, pareil, on ne pourra pas ni ouvrir la buvette, ni vendre de la billetterie. Pareil, là, on est à un jauge à 90 personnes. Et quand je vois la Fédé, déjà, ils nous ont envoyé une liste pour 70 invités. Je ne sais pas comment on va faire. Entre les clubs adverses et la Fédé, au départ, c'était 160. On a demandé que ce n'est pas possible. Déjà, nous, c'est 90. Et là, ça reste des matchs parce que c'est intéressant aussi pour nous, les filles qui trouvent de la public, parce que contre Orléans, on avait les tribunes qui étaient pleines.
Oui,
là,
tout le temps, oui.
Malheureusement, on est autorisé à faire 70. Quand on voit aussi, il y a des choses qui sont incompréhensibles. Hein. On voit nos confrères là qui ont fait la SA15, il y avait 5000 ou 4000 spectateurs dans leur stade et nous, on est limité à 90. Il y a des choses qu'on ne comprend pas.
Ça se joue à la préfecture ou c'est vraiment, par exemple, une jauge par rapport à votre tribune du stade? Comment ça se joue?
En fait, la préfecture nous ont dit déjà, la jauge c'est 30%. Et puis quand ils demandent 1 mètre de distanciation entre les spectateurs, c'est-à-dire quand vous mettez un spectateur sur une chaise, et les 4 autour ils sont vides. Et comme ils ont interdit aussi les spectateurs autour de la main courante.
Tout le monde doit être assis lorsque...
Tout le monde doit être assis, et si on respecte le 30%, et si on respecte aussi il y a 1 mètre de distanciation, et parce que nous, au lieu de... Parce qu'on sait notre tribune, on peut mettre 300 et quelques spectateurs, mais on passe à 90.
Plus concrètement, comment vous avez vécu ces 2 saisons? Donc, vous avez continué à jouer, puisque la D1 ne s'est pas arrêté par rapport, moi je pense notamment au National 2 masculin qui s'était arrêté. Comment vous avez vécu justement la continuité de votre saison avec le Covid?
C'était très compliqué en fait, surtout un club comme le nôtre, il a besoin de ses spectateurs, c'est l'ADN du club.
Oui.
Et quand on jouait, c'était vraiment triste. Les filles même, en fait, surtout des anciennes ici, ils n'avaient pas l'habitude de jouer comme ça. Il y avait cette relation avec le public après, avant et pendant le match. Et c'était très compliqué. Même au niveau financier, en fait, il n'y a plus de rentrée d'argent, on ne peut pas se projeter en disant voilà, il y a des choses sur lesquelles le stade. Je sais qu'ils ont fait les travaux à la mairie et je les remercie. Ils ont fait un bon travail et on n'a pas pu profiter de tout ce travail-là à cause de ce qui s'est passé l'année dernière, le Covid. Et puis, jouer à huis clos, ça manque quelque chose, en fait. On joue un match, on a l'impression qu'il manque une joueuse. on joue peut-être un, il manque quelque chose. Et c'est pas des matchs qu'on aime jouer à fond parce que le public n'est pas là. On a vu quand le public est revenu. Et c'est là, rappelez-vous, le premier match qui était décisif contre Fleury, il y avait du monde au stade.
On n'a même pas une ambiance de match amical au final quand ça a huis clos.
Oui. Mmh. Et on n'a pas l'impression qu'on est chez nous. C'est comme si on jouait à l'extérieur.
Oui.
Président, il est hors de question d'aller jouer à Debon.
Non, il n'y a pas de. Aujourd'hui, en fait, c'est notre stade. Et puis, en fait, il faut savoir aussi, là, enfin, ce qui était fait, les travaux, mais on a installé des panneaux LED. Nos partenaires, ils sont. En fait, on a nos habitudes qu'on y va jouer. Sauf si demain, on sait qu'il y a 5000 spectateurs qui vont venir voir un match, oui, on va y aller. Mais en tant que seuil ne pas déplacé, on préfère de rester chez nous.
Oui, d'autant plus que Léo Lagrange, comme vous le précisiez, a subi des travaux pour de notamment au niveau de la tribune. Donc vous avez un écrin tout neuf là maintenant.
Oui, mais au niveau de vestiaire, on a beaucoup d'équipes de D1 qui viennent chez nous. Et les trois quarts des clubs en D1, ils n'ont pas les vestiaires qu'on a aujourd'hui. Ils sont surpris et ils me disent c'est propre, c'est oui, c'est pas parce que c'est soyeux. Et des fois on se déplace dans des clubs vraiment, qui sont adossés à des clubs pro. Et non, ce qu'on propose, c'est vraiment des bonnes qualités.
En championnat, donc vous avez un mois de février chargé, puisque il va y avoir ce match à Dijon, donc forcément entre guillemets une revanche par rapport au match de l'aller où vous perdez, mais malheureusement pas hyper logiquement. Et après donc il y aura ce déplacement à Lyon. Jouer à Lyon, j'imagine que c'est toujours un match entre guillemets gala, un match particulier dans la saison.
Oui, de toute façon, le match de Lyon, c'est toujours un match complètement gala. Et puis, quand on y va là-bas, on n'a rien à perdre, en fait. Ouais. La pression, elle n'est pas sur nous. Hein. Si on arrive à faire quelque chose, ça sera l'exploit de Soyaux. Mais si on ne fait rien, et tout le monde se trouve ça normal que si on y va à Lyon, qu'on revient avec 0 points, c'est ce qui est logique pour tout le monde.
Ce qui n'est pas inscrit dans le tableau de marche, voilà.
Voilà, exactement. Mais nous, on y va pas là-bas pour dire on va perdre. Moi, je sais que là, chaque fois, les joueuses, ils vont là-bas, ils ont un cœur de faire quelque chose.
Oui, d'ailleurs, l'an passé, c'était, je crois, le premier match de Laurent Mortel à la tête de la J, et vous marquez un but à Lyon, ce qui n'avait pas été le cas depuis très longtemps. Enfin, vous n'avez pas pris de but, je crois, depuis le début de la saison, et vous avez réussi à leur marquer un but, donc c'était déjà une belle performance.
Oui, mais le match aller chez nous, en fait, on revient à 2-1, et puis on était à deux doigts de revenir à 2-2 aussi. Et on arrive à marquer contre ces équipes, parce que c'est une qui est pas mal. Hein. Marquer contre Lyon, c'est pas donné.
Oui, puis vous avez aussi marqué contre le PSG, puisque vous prenez un but de mémoire très vite dans le match et vous égalisez au bout de 10 minutes de jeu. Donc...
Exactement. En fait, c'est ça, cette saison, en fait, ça ne nous a pas souri jusqu'au bout. Et ce qu'il dit le coach, en fait, souvent, on donne les buts. Là, quand vous voyez le match contre Paris FC, deux fois, on donne le ballon. Le ballon, on avait le ballon, on leur a donné.
Oui.
Et il faut qu'on arrive à gommer ces erreurs individuelles.
C'est des erreurs vraiment individuelles qui vous plombent finalement en termes de résultats. Et finalement, c'est ce qui fait la différence entre prendre un point ou en prendre zéro.
Ouais, exactement. Quand vous voyez le match contre Paris FC, en fait, notre gardienne, elle n'a pas fait d'arrêt. Les trois buts qu'elle prend, elle prend à 3 mètres. Mais dans le match, on n'était pas dominé. Il n'a pas eu 50 000 frappes. Il n'a pas eu 50 face à face. Ça veut dire que l'équipe, il tient tête en face.
Et donc après Lyon, donc il y aura ce match, c'est surtout là que je voulais en venir, il y aura ce match contre ici le 26 février. Ici forcément ça va être un match super important lorsqu'on regarde le classement. C'est au moins ne pas perdre pour les laisser derrière vous ou gagner chez elles pour réaccentuer l'avance que vous avez sur elles.
De toute façon, c'est l'histoire qui va être en fait, hein, l'année dernière, on était relancé contre ici quand on a gagné chez elles. Oui. Il faut savoir aussi ce que j'ai dit avec j'ai présenté souvent avec la présidente d'ici. J'ai dit si vous êtes en D1, c'est grâce à nous, parce que ils sont maintenus en D1 parce qu'on a gagné contre le Havre. Parce que si c'était un match nul, ils sont perdus. C'était eux qui descendaient en D2.
Aujourd'hui, donc, il y a eu l'officialisation sur vos réseaux de l'arrivée d'une nouvelle joueuse, une Argentine, Julieta Lema. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler d'elle?
Alors Julieta, il faut savoir, c'est la première joueuse argentine qui vient en Europe. Hein. Alors il y a une discussion, ça c'est un agent hein, qui nous l'a présenté en disant que c'était les jeunes, elle a 21 ans. Ça peut être une future star argentine. Là, elle est venue ici, elle a commencé les entraînements chez nous depuis 2-3 semaines. Il y a un temps d'adaptation, mais parce que c'est vrai, quand les filles viennent chez nous, ils sont sans prise la dureté des matchs, même quand ils font à l'entraînement, mais ça va beaucoup plus vite qu'on a l'habitude de le faire. C'est beaucoup plus dur, c'est plus physique. Et je crois qu'elle a besoin de, à mon avis, 2-3 mois avant vraiment qu'elle puisse rentrer dans le bain. Mais on va voir si, là, sur le, je sais pas si elle va être sur le bon, parce que le Coupe de France aussi, on a le droit qu'à 16 joueuses. Ça aussi. On pourra pas mettre tout le monde.
Ah oui, vous avez pas le droit à 18 joueuses en Coupe de France?
Non, en Coupe de France, à partir de demi-finale, oui, mais pas avant.
Ah d'accord, ok.
Et 3 changements, pas plus.
Parce que chez les garçons, c'est à partir du 7e tour qu'on a le droit à 18 joueurs. Donc,
non.
Vraiment, il n'y a pas de différent.
Non, là. Et puis, on a le droit à 3 changements seulement.
D'accord, ok. Oui, alors que chez les garçons, du coup, c'est 5. Donc, c'est un peu différent.
Dans le championnat, c'est cette année qui était actée qu'on peut avoir 5 changements. Sinon, l'année dernière, c'était que 3.
D'accord. D'accord. Et donc, par rapport à cette arrivée, est-ce que vous travaillez sur d'autres dossiers où on peut acter?
Il y a l'autre arrivée, c'est d'être annoncé aussi aujourd'hui une gardienne internationale kenyenne qui est arrivée chez nous.
D'accord.
Et c'est une belle histoire aussi qu'elle a 21 ans. C'est une grande gardienne qui fait 1m85. Et puis, moi, je suis allé avec le coach quand il y avait la CAN en Égypte. On est allé observer parce que c'est la première CAN qui était organisée pour les filles.
Oui.
On est allé là-bas, on a absorbé un peu, puis on a regardé quelques filles. Il y en a, c'était Liliane, la gardienne, qu'on a réussi à le faire venir. Puis on a sur d'autres joueuses. Peut-être que ça sera pas cet été, mais on espère qu'ils arrivent. Non, ça sera pas cet hiver, mais on espère qu'ils arrivent cet été.
Comment vous parliez d'agents, comment est-ce que vous avez un réseau, président, pour pouvoir faire en sorte que des agents prennent contact avec vous,
Ouais, de toute façon, les agents maintenant, vous savez, eux, ils sont assez malins pour trouver les numéros de téléphone de la personne sur laquelle il faut compter. Alors moi, en fait, j'étais surpris quand je suis arrivé dans le foot féminin. Il y a des agents qui sont adorables, qui font leur métier. Mais je trouvais aussi, il y a beaucoup d'agents aussi dans le foot féminin qui n'ont rien à faire dans le foot féminin. Et des fois, quand je discute, je vois que l'intérêt de la joueuse, c'est la dernière chose qui leur intéresse. Et heureusement, il y a quelques agents qu'on arrive à travailler intelligemment et parler d'un projet. Parce que quand vous voyez les filles, qu'est-ce qu'elles gagnent par mois, déjà, si elles arrivent à boucler son fin de mois, c'est déjà pas mal. Alors, chercher à gratter de l'argent sur les deux des joueuses, je trouve ça, c'est un peu limite. Mais, malgré tout ça, il y a certains agents qu'on arrive à travailler intelligemment et penser vraiment, pour certaines joueuses, de l'ombre, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces joueuses-là, ou parler de carrière des joueuses. Et puis, le club aussi, qui va bientôt signer un partenariat aussi avec une société pour s'en occuper de l'après-carrière des filles. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur pour proposer aux filles autre chose. Vous savez, le foot féminin, si la fille touche 1500 ou 2000, 3000 euros, c'est pas avec ça, à 30 ans, à 35 ans, elle a fait sa vie, hein. Il faut déjà dès maintenant qu'on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire après le foot. Et c'est des choses vraiment qu'on voulait mettre en place à la SGSOE.
Donc, président, ça veut dire que dans l'effectif qu'il y a aujourd'hui, il y a un certain nombre de joueuses, qui ont déjà une vision assez précise de ce qu'elles vont faire après le foot.
Oui, en fait, on a 4 partenaires. On en a notre plus grand partenaire, c'est Crédit Agricole, qui est très actif, qui a même proposé de prendre des joueuses, leur proposer de leur prendre le métier de banquier. C'est un partenaire vraiment qui est très actif avec nous, qui est allé faire quelques rendez-vous avec nos joueuses pour leur proposer, même pendant leur carrière, d'apprendre un autre métier, puis pourquoi pas.
D'ailleurs, j'avais vu sur votre page Facebook toujours une vidéo qui avait été réalisée donc avec Kiang, votre nouvelle joueuse chinoise, qui était vraiment sympa. Et en plus, donc c'était sous-titré en chinois. Le fait justement d'avoir des recrues étrangères, donc une chinoise, une argentine, il y avait aussi une joueuse israélienne qui est arrivée durant l'été, quelques africaines, c'est aussi. Est-ce que vous espérez du coup une vision un peu mondiale entre guillemets, enfin je sais pas trop comment exprimer ça, mais j'imagine que vous m'avez compris.
Oui, bah de toute façon, comme je dis, l'arrivée de Young, il y a eu une discussion avec son club, Shanghai. Et puis, en fait, les conditions, en disant qu'ils avaient une qui était arrivée au PSG, qui est très, très mal vécue. Pour ça, ils voulaient pas les grands clubs. Et, de toute façon, on a vu, dès qu'il arrivait, il y avait un traducteur, même si c'était une fille adorable, Young. Là, ça fait, je crois, un mois. Et ce matin, il voulait me faire la conversation en français. Bonjour, président. Je vous dis vous, pas tu, parce que vous êtes le président. En fait, il commençait même à rentrer. J'ai trouvé ça, même une manière de rentrer en contact avec les joueuses. Et puis non, c'est la notoriété du club que je cherche vraiment à la faire avancer. Demain, je sais que il y a des sociétés chinoises qui vont s'intéresser à notre club. On en a besoin de ce partenaire-là. On a besoin aussi que le club des Soyaux soit connu mondialement. Hein. C'est pour ça, si vous dites, si vous avez raison de souligner ça. Hein. S'il y a une joueuse chinoise, une joueuse argentine, une joueuse israélienne, c'est, ou l'autre côté aussi, en dehors des sportifs, c'est pareil, c'est la partie communication, et c'est l'autre partie aussi, la notoriété du club, et puis faire appel de pierre à des partenaires étrangers qui peuvent venir rejoindre le club. Oui, c'est un projet en fait parallèle à le projet, au projet sportif.
D'ailleurs, on peut envisager que d'autres joueuses chinoises fassent le trajet, ou cette année, peut-être les années prochaines, ou c'est vraiment une expérimentation pour l'instant avec Yang, et puis on verra.
Il y a une deuxième année. Déjà qui commençait à revenir vers nous. On a dit pourquoi pas, hein, deux joueuses, ça peut être. Mais en fait, ce qu'il faut savoir aussi dans le foot féminin, ce qu'on appelle l'extracom, on a le droit à trois.
D'accord. D'accord. Communautaire.
Alors là, on a déjà le quota. Hein. On a la chinoise, l'israélienne. C'est une extra-com aussi, et l'Argentine.
D'accord. Oui, donc au final, si vous en avez plus que trois, il faudra faire un choix entre quatre ou cinq pour trois places au final.
On pourra faire que trois contrats en fait.
Oui. Ah oui, d'accord, ok. D'accord.
C'est, au départ, nous, on a cru que c'était trois sur la feuille de match.
Oui,
nous, on l'a fait. Ils sont revenus vers nous, ils ont dit non, vous avez le droit de contracter trois joueuses extra-com, pas plus.
D'accord. Oui, oui, donc il y a une grande différence par rapport à 3 sur une feuille de match. Vous pouvez avoir 5 ou 6 joueuses, mais seulement mettre 3 sur une feuille de match.
Oui, oui, là aujourd'hui, ils nous ont bien confirmé, c'est 3 contrats, pas plus.
D'accord. D'ailleurs, par rapport à la Chine, comment vous voyez un peu le foot féminin là-bas? Est-ce que ça se développe beaucoup? On sait que le foot masculin a un peu de mal à se développer. Ils ont fait venir des techniciens comme Marcelo Lippi, mais ça a du mal à prendre. Chez les femmes, comment ça se passe? J'imagine que vous avez
un peu... En fait, ouais. Je sais, c'est le marché pour les foot féminins. Parce que les salaires qu'on propose et puis les transferts qui se font, en fait, même en Europe, ça ne se fait pas. Hein. Même le PSG et Lyon sont incapables de s'aligner par rapport à ce qui se passe en Chine. Ça reste aussi, c'est... Quand on regarde les meilleures joueuses qu'on a vues, il y avait quelques joueuses vraiment qui sont sorties de l'eau quand il y avait le... la compétition il y a 6 mois, et on sait que les Chinois, même les Russes, hein, qui commencent vraiment à se développer le foot féminin. Alors les nouveaux, je sais pas, parce que quand on a vu arriver Wang, même elle-même l'a senti que non, les nouveaux en France, c'est beaucoup plus élevé de ce qui se passe en Chine. D'accord. Mais ils mettent les moyens. Mais demain, si on joue contre une équipe chinoise, je sais pas s'ils peuvent rivaliser par rapport à ce qu'on peut proposer à une équipe moderne.
D'accord. Président, vous parliez donc d'une vision mondialiste du club, et c'est tout à votre honneur. En revanche, sur le plan français, est-ce qu'il y a des clubs avec qui vous avez tenu soit des passes, soit des partenariats?
Oui, vous voyez là, on va annoncer que nous allons prêter une joueuse à Bordeaux.
D'accord.
En fait, là, notre gardienne, Laetitia Philippe, c'est une gardienne internationale, on va la prêter à Bordeaux.
D'accord.
C'est déjà fait, en fait. Et puis, on a des discussions avec le PSG, avec Lyon, souvent des prêts où ça se passe bien, en fait. Comme nous, entre guillemets, hein, pour le moment, j'espère que ça va pas durer longtemps. C'est pas un danger, le club des Soyaux, le PSG ou Lyon. Pour ça, ils peuvent nous prêter des joueuses et ils peuvent prétendre aussi s'ils ont des jeunes joueuses qui veulent gagner un temps de jeu, qui viennent nous voir en disant est-ce que ça se peut. Mais l'année dernière, on a eu,
Marine Perea qui était venue de Bordeaux, notamment.
Elle a passé un cap chez nous. On voulait la récupérer cette année. Et Bordeaux l'a dit non, merci. C'était très bien passé chez vous. Mais là, elle a passé le cap. Maintenant, elle reste dans 18. Et pareil, l'année dernière aussi, on en avait une de Lyon, qui était en prêt chez nous. Daniel Roux.
Oui, exact. Daniel Roux.
Oui, Daniel Roux. Qui est en Lyon, je crois, cette année. Et puis, nous, c'était compliqué vu qu'il a pris 6 matchs de suspension, c'était compliqué de se projeter avec elle, avec nous cette saison.
Oui, donc aussi, Soyo, ça peut être aussi potentiellement un club pour développer certaines jeunes, pour leur faire passer des paliers au final.
En fait, moi, c'est ce que je voudrais faire avec Soyo. En fait. Si on arrive à attirer les pipites, que ce soit, moi, l'objectif, c'est les Françaises. Hein. Ce qu'on a dit la dernière fois. Moi, j'allais parler un peu avec Olas. J'ai dit, moi, je veux bien vous donner votre liste de joueuses qui ont du potentiel, qui viennent chez nous, qui passent le cap, qui puissent gagner un temps de jeu, qui même les mettre en lumière. c'est des clubs comme nous qui pourront faire ça. Lyon, ils auront du mal en fait à prendre les jeunes et à leur faire donner un temps de jeu parce que eux, ils sont dans l'objectif de tout gagner. Mais non, si on arrive à un moment donné que faire des soyeux, l'équipe qui pourra former les jeunes et les envoyer dans un grand club, ça peut être une grande fierté pour nous.
Oui, puis en plus, il y a ce qui est bien avec soyeux, c'est qu'il y a des joueuses qui sont en club depuis très longtemps. On peut penser à des filles comme Laura Bourgoin, Siga Tandia, Anna Clara, qui malheureusement a pas de chance au niveau des blessures, au niveau du genou. D'ailleurs, je la salue et j'espère qu'elle va mieux. Et au final, c'est un peu l'alliage de filles qui sont au club depuis très longtemps, d'étrangères qui arrivent et puis de jeunes espoirs françaises qui vous rejoignent pour une saison ou pour un peu plus.
Oui, en fait, malgré tout, le club de Soyeux, ça reste un club familial. Ça se passe super bien entre les filles, en fait. Qu'elles soient étrangères ou pas, les filles, quand elles arrivent au club, elles sont adoptées tout de suite. Pour ça, les filles, quand on voit que ce soit les deux étrangères, ils sont vraiment, à chaque fois, je le pose comment ça se passe, mais super bien. Les filles sont adoptées, et que ce soit même qu'elle a un peu de difficulté à parler young, mais toutes les filles m'ont dit c'est une fille marrante, c'est une super fille, et qu'elle est intégrée, puis. C'est notre fierté aussi, c'est notre ADN. Ça reste un club familial et tout le monde connaît tout le monde. Et puis, malgré cette démarche-là, qu'on va un peu encadrer les choses pour que ce soit plus professionnel, mais moi, je veux garder cet ADN-là du club qu'un club familial.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un peu cet aspect-là qu'on vous avait. On avait insisté avec vous sur cet aspect famille, et donc c'est vrai que c'est un aspect que vous voulez conserver.
Oui, exactement. C'est notre force.
C'est d'ailleurs un peu ce qui est, je veux dire, un club familial en D1 féminine, c'est pas le cas partout, entre guillemets.
Non, en fait, même l'année dernière, quand on était en difficulté, il n'y a pas eu un mot plus que l'autre dans les vestiaires. Les filles sont restées solidaires. C'est pour ça qu'on a pu faire une deuxième partie de saison qui était costaud. Même là, on sait, les filles, c'est frustrant, mais la vestiaire reste soudée.
Donc ça, oui, c'est comme vous le disiez, c'est l'ADN finalement de ce club-là.
Oui.
Oui, c'est ce qui a sûrement fait votre force en dernier par rapport à des vestiaires qui auraient pu peut-être partir un peu en vrille ou être moins unis. Vous êtes restés vraiment unis et c'est ce qui a fait votre force en dernier pour vous maintenir.
Mais regardez le Havre, en fait, ils avaient deux fois notre budget. Ils avaient des joueuses, ils avaient des salaires. Mais moi, ces joueuses-là, fin de saison, ils voulaient me rejoindre. Comme la fille m'a dit, je suis à 5 ou 6 000 euros. J'ai dit, ça sert à rien que je décroche les téléphones. Chez nous, ça passe pas comme ça.
Vous avez choisi Attitude 98.3 et 90.7, mais aussi www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports de lundi, 19h-20h30. Nous retrouvons notre invité Benoît Le Tapissier et Christian qui l'interview.
J'imagine que vous avez forcément une vision aussi. Bien sûr, les résultats actuels sont hyper importants, mais quelle vision potentiellement vous avez pour la J dans peut-être une saison ou deux, ou dans est-ce que finalement quand on est président d'un club pro de football, est-ce qu'on se projette à 2-3 ans, ou c'est vraiment l'instant présent qui est vraiment le plus important?
Quand je suis venu au club, j'ai annoncé à tout le monde, j'ai un projet pour 10 ans pour ce club-là. Je suis pas venu pour une saison ou deux. C'est vraiment 10 ans. C'est 2 ans de stabilité. On va stabiliser le club. On va rester en D1 parce que c'est la condition pour stabiliser. Et puis à partir de 2 ans, déjà structurer le club. Et moi, je suis persuadé que ce club-là, il va attirer pas mal du monde. Il va attirer des sponsors. Si on a un club vraiment l'ADN féminin à 100%, on est le seul. C'est l'exemple unique qui existe presque en Europe, qui a à ce niveau-là de compétition en D1. Après, on a tous les atouts. Quand on regarde que Corinne Diacre, il vient de chez nous. Quand on regarde aussi quelques personnels qui sont à la Fédération française qui viennent de Soyeux. En fait, c'est un club qui peut avoir une autorité, mais vraiment importante. L'idée, pour moi, c'est stabiliser le club pendant 2 ans. Et puis, pourquoi pas, la 3e place de la Ligue des Champions, projetée dans 5 ans, pourquoi pas aller chercher ces 3e ou peut-être les 4e ou 5e classes qui va s'ouvrir sur un autre championnat, comme chez les garçons, dans l'Europa League. Pourquoi pas, dans 3 ou 4 ans, que Soyeux pourra devenir qui peut jouer à un championnat européen.
D'accord. Donc du coup, il va y avoir une deuxième Coupe d'Europe qui va s'ouvrir pour les clubs féminins?
Oui, en fait, ce qui a été dit, déjà, parce que quand un club qui va gagner la Coupe de France, il pourra participer à 0 compétition européenne, qui n'est pas normal. Et puis après, le quatrième, cinquième place aussi, ce sera aussi intéressant d'avoir un deuxième. C'est l'équivalent de Europa League chez les garçons.
Oui, complètement, ouais. Parce que c'est vrai qu'à la rigueur, au final, c'est vrai que la Ligue des Champions, ça ne concerne pratiquement que Paris et Lyon. Donc c'est...
Et ça... la troisième place qui était ouverte, j'ai dit comme ça, on peut donner plus d'importance au championnat comme ça. Oui. Même le quatrième et cinquième place, ça peut être important aussi.
Ça remonte l'attractivité au final.
Oui, exactement. On pourra avoir peut-être trois championnats, trois niveaux de championnat dans notre championnat. Le premier, deuxième place, et puis le troisième, quatrième, cinquième place, et puis après le maintien.
Oui, complètement. Parce que c'est vrai que quand on est septième ou huitième et qu'on est assuré de se maintenir, mais qu'on est trop loin des premières et deuxième places, au final, c'est vrai que il n'y a pas grand chose à jouer. De terminer entre sixième, septième ou huitième, c'est pratiquement pareil. J'imagine.
Oui, je sais que s'il y a une volonté à l'UEFA déjà pour qu'on puisse mettre ce deuxième championnat en place, qui sera intéressant pour tous les championnats. Parce qu'on voit ce qui se passe en Angleterre. Ils vont aller, mais 10 fois plus vite de ce qu'on est en train de faire en France. Et à mon avis, si on n'arrive pas à suivre le rythme, en 2 ans, ils vont dépasser tout le monde.
On vous le souhaite pas, président, mais bien sûr. Mais si par malheur, on met ça entre guillemets, le club descendait en deuxième division, est-ce que ça remettrait en cause le projet?
Non. Comme je dis, c'est un projet pour 10 ans. Hein. On est en train de construire. Hein. On a plein de projets qui sont mis en place. On est en train de se préparer pour le centre de formation. J'espère qu'on va être parmi les premiers clubs qui va proposer un vrai centre de formation. Parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas chez le foot féminin. Ni le PSG, ni Lyon, ni aucun club. Hein. Les centres de formation féminin n'existent nulle part. Mais on est en train de travailler. Et puis, l'idée est qu'on puisse projeter quelque chose sur un an et demi.
Quel est le rôle du manager qu'il y a au sein de votre club, président?
Alors aujourd'hui, on a un nouveau qui est arrivé. C'est vrai, quand j'y suis arrivé, à un moment donné, moi, au départ, j'ai nommé un président puis un manager. Et puis au mois de novembre, j'ai vu que tout est parti dans tous les sens. Et c'est pour ça que j'ai dit pendant 6 mois, je vais prendre les choses en main, essayer de mettre les choses en place et remettre maintenant un manager qui est arrivé. Le manager, en fait, l'idée, c'est faire le relais entre le staff technique et le président, entre le relais entre les joueuses et les staffs techniques, parce que chacun, il faut vraiment, c'est comme tous les structures pro, et qu'on arrive aussi, si on veut demander des résultats, il faut que je donne les outils. Si on n'a pas d'outils, on peut pas avoir les résultats. C'est mon travail à moi de donner les moyens, et derrière, je peux exiger le résultat quand je donne les moyens. Et donner les moyens, c'est structurer les clubs. Et le manager aussi qui sera au cœur de ce travail-là, qui va faire son travail, en fait, tous les relais, la partie sportive, la partie administrative, la partie humaine, la partie relationnelle entre l'administratif, les joueuses, l'administratif aussi, peuvent aider aussi dans tout ce qui est intégration dans la région pour les étrangers qui viennent chez nous.
On peut assimiler ce poste à un directeur sportif par rapport au monde professionnel?
Oui, on peut assimiler ça avec plus, en fait, parce qu'il y a on va lui demander autre chose, parce qu'aussi, il va être actif aussi sur la partie commerciale. On va lui demander aussi de commencer à faire attention aux images des filles quand on fait des interviews. Vous voyez, avec Young, ça, on commence à proposer autre chose. Là, la même chose qui était proposée avec Young, on va aussi travailler dans la même manière avec la joueuse argentine.
À propos des médias, président, est-ce que vous êtes satisfait des relations que vous avez avec la presse locale ou régionale, ou est-ce que vous considérez que vous êtes encore sous-exposé?
Alors, des fois, il y a des questions que je me pose. J'ai l'impression, des fois, qu'on nage contre courant. Là, j'ai dit des choses peut-être récentes, hein, c'est que dès que l'ensemble. Des fois, j'ai le sentiment que ce club-là gêne, que les filles, dans la région, c'est les filles qui sont au plus haut niveau. J'ai l'impression, des fois, ça gêne pas mal de gens. Et puis, des fois, les réactions, ils sont pas adaptés. Quand, des fois, je vois, quand on gagne un match et dit que Soyou a failli perdre, j'ai dit, mais il y a un problème. On affiche ça, mais c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui. Malgré, on a beaucoup de gens autour de nous qui essayent de nous aider, mais c'est gênant, des fois. Je vois que, peut-être dans la région, le seul club qui est dans vraiment le plus haut niveau, c'est l'Aïzi Soyou féminin. Ça peut aussi, des fois, je ne sais pas, c'est de la jalousie, ou c'est, on espère aussi peut-être avoir un autre club garçon dans notre pratique de sport qui arrivera aussi à ce niveau-là. Mais des fois, j'ai ces sentiments-là de nager contre courant et on est obligé peut-être d'approuver à chaque fois qu'on mérite d'être là et puis à chaque fois approuver, même quand tu fais des faux pas, on a moins droit à des faux pas que les autres.
Et à quoi vous attribuez ce manque d'intérêt ou ce manque de soutien ?
Je sais pas. Après, c'est de faire comprendre aussi déjà, parce que vous savez, il y a 3 ou 4 ans qu'on dit à une fille qui joue au foot, ça fait rire tout le monde. Mais là, on est en train de prouver que le foot féminin, surtout au niveau mondial, c'est les sports qui progressent le plus. Est-ce que, je sais pas, on n'est pas assez tolérant avec les filles? Est-ce que on va passer un peu plus de temps d'accepter aussi que les filles peuvent arriver aussi et dépasser certaines idées qu'on peut aussi dans le plus haut niveau et dans une région, ça peut être aussi c'est les clubs féminins qui tient le flambeau, au lieu que ce soit un club masculin, peut-être.
Ouais, pourtant, on voit que vous êtes présent sur les annonceurs publicitaires, sur les panneaux qu'il peut y avoir à Angoulême. Donc, c'est quand même une source de satisfaction, pardon.
Oui, de toute façon, ce que j'ai dit, aujourd'hui, même on est présent, tous nos matchs, ils sont télévisés. On est projeté sur 7 pays dans le monde.
D'accord.
C'est-à-dire, si on est dans un championnat effectif, si le soyeux aujourd'hui il est dans la D1, parce qu'il mérite bien sa place, et puis la notoriété, normalement, c'est pas quelque chose qui a été donné par hasard. Non, parce qu'on mérite notre place, on mérite d'être là. Hein. Et puis, qu'on soit sur les panneaux publicitaires, pour un club, en fait, la région aujourd'hui, dans le monde, hein, des fois que je vois des pays africains qui commencent à négocier avec notre club, il y a des clubs qui veulent faire des partenariats, la Chine. Mais vous croyez, s'il n'y avait pas ce club-là, personne n'entendra parler de Soyou. Les gens, ils ne savent même pas où c'était. Mais là, quand on commence à parler, les gens, ils voient là. Cette région-là, ça commence à parler grâce à son club.
Oui, d'ailleurs, c'est la grande différence entre la D1 et la D2, c'est que la D1 est diffusée sur Canal+, alors qu'au final, la D2 reste quand même assez obscure.
Oui, la D2, il faut savoir aussi... Ça encore, ça reste un championnat amateur. La moitié des joueuses, elles travaillent, elles ont un autre travail en dehors de foot. Ils s'entraînent le soir parce que c'est des filles-là qui travaillent. Et après, ça vient, en fait, quand on regarde en D2, maintenant, il y a pas mal de clubs qui s'intéressent, qui sont adossés à des clubs pro. Quand on peut regarder, mais qu'on a cité tout à l'heure, les 4 clubs qui cherchent à monter en D2, c'est les 4 clubs qui sont adossés aux clubs pro. Mais derrière aussi, il y a les moitiés aussi, ça reste des clubs amateurs. Mais qu'ils ont peut-être 5 ou 6 joueurs seulement sur le contrat fédéral. Les restes, c'est des joueurs amateurs. En matrice, pardon.
Ouais. Donc là, vous êtes sur un effectif qui est professionnel à 100%?
Oui.
Quelles sont les retombées, pardon, on parlait de Canal+, tout à l'heure. Quelles sont les retombées des droits télé? Est-ce que c'est quelque chose qui change la voilure d'un club?
Mais aujourd'hui, c'est zéro.
C'est zéro. Très bien.
Non, on n'a rien, en fait. Et puis, c'est la discussion qu'on a eu avec la Fédé en disant...
C'est un paradigme.
Oui. Parce que, en fait, les droits télé sont versés à la Fédé.
D'accord.
Ils ne sont pas versés au club.
Et c'est une forme d'injustice, non?
Oui, mais sinon, en fait... Alors, quand vous regardez dans le paysage de la D1, aujourd'hui, on est 12 clubs. Mm-hmm. Dans les 12 clubs, on a 3 clubs dits amateurs. L'ASD Soyaux, Fleury et ici le Moulinon.
D'accord.
Après, vous avez 9 clubs qui sont adossés à un club pro. Et... Oui, mais c'est le choix. Mais quand on regarde, l'injustice, c'est où? Vous savez, nous, quand on loue un bus, c'est le club qui va payer. Les médecins, c'est nous. Les clinés, c'est nous. Mais de l'autre côté, en fait, c'est le médecin des garçons. C'est le partenaire des tels. Et puis, c'est le bus de l'autre. En fait, l'équité, il n'est pas là parce que il y a des choses, quand on demande à la Fédé de mettre un peu plus de moyens et aider ces clubs et des amateurs, parce que c'est vraiment, s'il y a des clubs qui s'intéressent au foot féminin, c'est les clubs amateurs qui mettent vraiment tout pour que ce foot féminin avance, qui attire les joueuses. On voit, il y a quelques clubs en D1, ils ont peut-être acheté un club à côté pour dire, tiens, nous aussi, on a un club amateur. Ça devient une obligation. Mais l'intérêt de foot féminin, ça reste pour moi les clubs amateurs qui ont cet intérêt-là.
Parmi les équipes de jeunes que vous avez au sein du club, est-ce qu'il y a déjà 2 ou 3 pépites qui ont retenu votre attention?
Ah, Alors, vous voyez, je crois qu'on en a... Il a joué déjà quelques matchs avec nous. Alors, il y a Camille Collin, c'est une fille qui est sortie chez nous, de notre centre de formation, et aujourd'hui a un contrat pro, qui est presque titulaire, qui joue tous les matchs. Et après, on a Carla, c'est une joueuse qui a 18 ans, qui est sur le banc presque tous les matchs. Après, on a fait venir cette année aussi Shana, qui était formée à Lyon au PSG, qui a 19 ans. Et c'est des joueuses, pour moi, c'est des joueuses d'avenir. Et puis, si on va parler aussi d'Anna Clark, c'est une fille aussi qu'on a dit, on la salue. J'espère qu'elle va revenir très prochainement. Là, déjà, elle a repris l'entraînement. Oui, oui, on en a quelques joueuses. Déjà, qui sort de centre de formation, qui sort de club. Et puis, des jeunes joueuses que je n'hésite pas, moi, à faire venir, même les étrangers. Hein. Vous voyez, Liliane, la gardienne que j'ai fait venir, elle a 21 ans. La chinoise, elle a 21 ans. Yang. Et puis, Julieta aussi, elle a 21 ans. L'idée, vraiment, c'est faire ce travail-là et ramener des jeunes. Et si on peut faire celles qui sont au club, les projeter dans le plus haut niveau, et celles qui viennent de l'extérieur, finir leur formation chez nous, les projeter au plus haut niveau.
Oui, oui, donc au final, il y a un travail de formation, il y a aussi un travail de post-formation.
Oui, oui, exactement. Ouais, parce que des fois, on me dit, non, mais je dis, regardez, avant de dire, on n'a pas de jeunes, regardez. Et quand on a joué le match, on en avait 5 ou 6 joueuses qui venaient des 19, qu'on a gagné parce qu'on avait 4 Covid, et puis on avait des filles qui n'étaient pas qualifiées quand on a joué le match de coupe.
D'ailleurs, en parlant de la réserve, donc la réserve est en Régional 1, c'est ça? Et les 19 sont 19 nats, c'est ça? Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces deux équipes et surtout des résultats qu'elles obtiennent?
Alors, ce qui est la bonne nouvelle, en fait, là, aujourd'hui, pour tout ce qui est R1, il y a R1 Elite, et que notre réserve était qualifiée avant la phase aller, 2 matchs avant, en fait. Parce que là, il y a une deuxième partie qui va être la R1 Elite.
D'accord.
Qui va normalement avoir plus d'intérêt, parce que ce qu'on dit, nous, en fait, nous, on veut bien, en fait, on a un groupe de 20 à 22 joueuses, il doit y avoir 18 qui est dans le groupe, les 4, nous, on aimerait que ces 4-là descendent pour jouer avec l'équipe R1, mais avoir un certain niveau. Pour ça, avoir un R1 élite, ça pourrait avoir l'intérêt, et pourquoi pas revenir à un D3.
Oui, histoire qu'il n'y ait pas un gap de niveau trop fort.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, entre les 19 NAS, avant, les filles en 19 NAS, ils avaient la possibilité de parler en D1, mais aujourd'hui, le fossé, il est énorme. À part quelques exceptions, mais vraiment des pupites qui peuvent faire la passation entre la 19 NAS et la R1, la D1, c'est presque impossible aujourd'hui. Alors, pour ça, on travaille en élite pour avoir, la première étape, c'était un R1 élite. Au moins, nos joueuses, quand ils vont descendre pour jouer, ils vont pas s'ennuyer, ils vont pas faire des matchs à 10-0, 15-0. Au moins, ils vont avoir des matchs qui ont de l'intérêt. Et si jamais vraiment la D3, ça revient, ça sera aussi du sens, aussi que tous les clubs dits dans le D1, ils peuvent avoir leur équipe réserve qui fera un mini-championnat. Parce que avoir des jeunes joueuses qui s'entraînent chez nous, c'est bien, mais avoir du temps de jeu, c'est important aussi.
Oui, donc du coup, d'avoir un niveau intermédiaire plus élevé pour que ce soit plus attractif pour les joueuses et puis pour la formation. D'ailleurs, en parlant de D3, il me semble que la D2 est à deux poules. Pourquoi ne pas faire une D2 à une seule poule et une D3 avec un mix entre des équipes de D2 qui descendraient et des équipes de R1 qui monteraient?
De toute façon, c'est la proposition qu'on a fait à la Fédé en disant, mais pourquoi on revient pas, ce que vous avez dit, c'est juste, un championnat D2 avec une seule poule, et puis peut-être pas, et faire deux poules entre D3. Et c'est là où on peut, c'est-à-dire, les clubs qui sont en D1, ils sont limités, ils peuvent pas aller au-delà comme chez les garçons. On reste en D3, mais au moins, il y aura de l'intérêt pour former les joueuses. Demain, si j'ai 25 joueuses, même si c'est joueuses jeunes, ça va être compliqué parce qu'ils n'ont pas un compte de jeu chez nous. Et si on va les faire jouer en R1, il n'y a pas d'intérêt. Pour ça, on essaie, nous, de trouver les justes moyens pour aller peut-être avoir des liens avec des clubs en D2.
Pour les prêter,
ils cherchent pas à la montée. Voilà, les prêter à condition que les filles qui partent en prêt chez nous en D2, qui jouent.
Oui, tout à fait. Ce qui ferait qu'elle jouerait en D2 au lieu d'aller en R1 et que ce serait plus intéressant pour vous et pour la joueuse.
Exactement, pour qu'elle finisse sa formation, parce qu'on les forme, ils s'entraînent avec nous, il n'y a pas de souci. Mais une joueuse a besoin de jouer. Tant qu'elle n'a pas atteint le niveau de la D1, ça va être compliqué de la faire jouer.
Oui, et puis de la lancer en D1 trop tôt, trop vite, ça serait aussi peut-être la cramer.
Voilà, la cramer, puis peut-être c'est pas la bonne chose à faire. C'est pour ça, de nous, là, certains joueurs, peut-être, on va aller conseiller, avoir quelques clubs des partenariats. Cette idée aussi, c'est monter des partenariats avec les clubs des D2. Mais comme ça, d'une côté, si vraiment ils ont des joueuses qui sortent du lot, ils viennent chez nous, et nous, on pourra leur prêter des joueuses de l'autre côté pour vraiment qu'on continue la formation entre nous.
Président, un mot de conclusion, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Là, je reviens à ce qu'il a dit. Oui, de toute façon, l'objectif, on fera tout pour qu'on reste en D1 et que l'histoire continue. À l'Aïsie Soyaux, et puis les matchs qui vont suivre, ça donne un élan aussi positif pour tout le monde.
Parfait, Président. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. En termes de support, vous pouvez compter sur nous, puisque on sera au rendez-vous un petit peu avant la fin de la saison pour qu'on refasse un point ensemble, en espérant bien entendu vous retrouver en D1 pour la saison prochaine. Voilà. Bonne fin de journée. Merci encore de votre invitation, de nous avoir répondu favorablement. À très bientôt, Président.
Merci beaucoup.